Et Jésus entra dans le temple. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de prophétique. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes réfléchirent et se convertirent. Ça aurait été bien, hein ? Il avait pourtant raison. Les principaux sacrificateurs. Et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Étrange Jésus. Au chapitre précédent, vous le lirez à la maison, pas maintenant parce que vous n'allez pas m'écouter. Au chapitre précédent, il prend les enfants dans ses bras et il les bénit. Quelle douceur, quelle tendresse. Et le voici maintenant, fortement irrité. Il parle haut, indigné, fait un fouet, chasse les gens, renverse les tables, les sièges, les pigeons s'envolent, les brebis commencent à bêler là-dedans, c'est un chahut pas possible. Et il donne des interdictions, il ne permet pas que. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il ne va pas compromettre tout son enseignement, lui qui a dit « Je suis doux et humble » Est-ce qu'il ne va pas choquer les enfants qui, au chapitre d'avant, étaient dans ses bras? Où est le problème? La prière, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont fait de la maison de Dieu tout, sauf ce qu'elle doit être. C'est-à-dire que la maison de Dieu, à ce moment-là, a perdu son identité. Elle a perdu son identité. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ça, c'est l'identité de ma maison. Mais voilà ce que vous, vous en avez fait. Tout, sauf la prière. Et je dis que ce texte préfigure symboliquement la colère de l'agneau dans Malachie 3, lorsqu'il viendra et mettra de l'ordre dans sa maison, lorsqu'il va venir purifier la classe sacerdotale. Alors je vais oublier mes notes quelques instants et je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Lorsque je suis arrivé dans une certaine église, pour prendre la suite du pasteur qui m'a précédé, je suis arrivé en début juillet, l'ancien pasteur était encore là, mardi soir, réunion de prière. Donc j'y assiste avec mon épouse, 4 longs chants, pour les plus anciens qui ont peut-être connu ça dans certains milieux, les ailes de la foi. Donc 4 longs chants avec le prof, et voilà. Le pasteur a prêché une demi-heure. Alors il avait sa chaise sur l'estrade, il s'est mis à genoux après devant sa chaise pour prier, j'ai chronométré, j'examine tout. 5 minutes, c'est long. Et puis après, quelques chrétiens ont prié, mais il restait peu de temps. Et dans la voiture, en rentrant, j'ai dit à mon épouse, tiens, c'était une soirée d'études bibliques. Mais le mardi suivant, même chose. Et puis j'ai vite compris que c'était comme ça. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire bouger une ville en priant un quart d'heure? Alors c'est vrai que ce n'est pas une question de temps, mais enfin on se comprend bien quand même. Et puis, j'ai pris la suite de l'assemblée. Alors, premier mardi où j'étais le pasteur de l'église, quatre cantiques, une demi-heure de prédication. Je n'ai pas prié cinq minutes, mais enfin, bon, j'ai prié. Et puis, les chrétiens à genoux ont prié un peu. Au bout de quelques courts mardis, trois cantiques, 25 minutes de prédication, et on a prié. Et puis, deux cantiques, et puis 20 minutes, puis un quart d'heure, et les chrétiens priaient, et puis ils ne priaient plus. Parce que ceux qui priaient continuaient à prier, mais ceux qui n'avaient pas l'habitude de prier depuis des années, ils ne priaient pas. Alors au bout de quelques minutes, ce n'était pas une réunion de prière, c'était une réunion de cimetière. Ça rime, mais ce n'est pas pareil, quoi. C'était pesant, comme pas possible. Alors à la sortie, c'est terrible. À la sortie, je saluais les gens, parce que je prenais toujours l'habitude d'être à la porte, et puis je saluais les gens. Alors, mon frère, pourquoi vous ne priez pas? Ah oui, bah oui, il faut faire la piqûre tout de suite. Hein. Pourquoi vous ne priez pas? Je prie dans mon cœur. Je ne lâchais pas la main. Alors, ma sœur, pourquoi vous ne priez pas? Je prie dans mon cœur. Et voilà, ils priaient tout dans leur cœur. Et là, le Seigneur m'a donné une idée de génie. Le mardi suivant, très peu de chants, un ou deux, et puis je prends un texte, je lis, je pose ma Bible et je souris à l'auditoire. Comme tout de suite, pour sur les textes. Et je balais l'auditoire de mon sourire. Alors les gens me sourient. Et je continue. Toujours avec le sourire. Mais vous savez, j'ai laissé passer des dizaines de secondes. Vous voulez que je fasse? C'est très long. Et les gens ont cessé de sourire. Un long silence. Et j'ai continué à balayer l'auditoire en souriant. Et là, dans la Bible, ils redoublèrent le silence. Et c'est ce qui s'est passé. Et rapidement, ce redoublement de silence a fait part à un malaise. Ça fait place à un malaise. Les gens se sont dit, certainement, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et je leur ai dit, vous savez ce que je suis en train de faire? Je prêche dans mon cœur. Je dis, on peut tous faire ça. On chante dans notre cœur. Je prêche dans mon cœur, vous priez dans votre cœur, restons chez nous. Et ce soir-là, quelque chose s'est cassé. Quand le peuple s'est mis à genoux, les gens ont pris conscience de ce que devait être une réunion de prière, et c'est parti, à partir de là, ça s'est construit. Alors ça ne s'est pas construit du jour au lendemain, mais ça s'est construit, ça a été un travail de longs mois, jusqu'à ce que la réunion de prière était à 7h le mardi soir. Les gens sont arrivés à 7h moins le quart et on attendait 7h. Je me suis dit, mais pourquoi on attend 7h? Puisque les gens sont là. On a commencé à 7h moins le quart. Les gens sont arrivés à 6h30. Alors je me suis dit, mais puisque les gens sont là, commençons à prier. Et nous avons supprimé les chants. Je vais vous dire pourquoi. Pas parce que ce soit une erreur qu'on chante dans les réunions de prière. Surtout que je ne sais pas comment vous faites, je n'ai pas envie de me faire des ennemis. Mais je vais vous dire pourquoi. Tous les hommes de réveil diront que si nous amenons les gens à se réjouir par les chants, nous ne pouvons pas les amener à être en agonie 5 minutes après devant les berges. Et ils disent tous que s'il y a des chants dans les réunions de prière, il faut que ce soit des chants qui amènent un fardeau sur le cœur des gens, pour qu'ils puissent intercéder sur le cœur de Dieu. Et j'ai dit à l'église, écoutez, le vendredi on chante, il y a l'étude biblique, le dimanche matin, il y a une heure et demie de louange avant la prédication, stop. Le mardi soir, c'est la prière, on prie. Et nous avons supprimé les chants, nous avons supprimé la prédication, juste les sujets de prière, et le peuple a prié pendant 1h30 tous les mardis soirs, de 6h30 à 8h, et vous n'auriez pas passé une feuille à cigarette entre les prières. Nous demandions des prières très courtes pour permettre au maximum de gens de prier, et c'était un flot, ça partait de partout, dans la réunion de prière. Et je pensais avoir gagné, jusqu'au matin ou dans mon bureau, le Seigneur avait rendez-vous avec moi, avec ce texte. Et le Seigneur m'a dit, as-tu remarqué, ma maison sera plus une maison de prière? Ben, je lui ai dit, Seigneur, je suis d'accord avec ça. Et je pensais que le Seigneur en avait terminé. Mais le Seigneur m'a dit, regarde bien, c'est pas une maison de chant. Ben, on n'a pas tort de chanter. Bien évidemment. Bien évidemment que non. Le chant a toute sa place. Mais le Seigneur m'a dit, mais en tout cas, ce n'est pas une maison de chant. As-tu remarqué que ce n'est pas écrit une maison d'enseignement? Enfin, le Seigneur, mais ta parole, ça a toute sa place, la parole. Bien évidemment. Mais bien évidemment. La parole de Dieu, c'est le fondement de la marche de l'Église. C'est ce que j'ai prêché ce matin, je ne vais pas dire le contraire cet après-midi. Mais en attendant, ce n'est pas écrit une maison d'enseignement. Maison de prière. Je dis, ben oui, d'accord, Seigneur, je suis d'accord avec ça. Mais le Seigneur n'en avait pas terminé. Il a dit, maintenant tu fais tes comptes. Combien de temps vous passez à chanter? Combien de temps tu passes à prêcher? Combien de temps vous passez pour ceci et pour cela? Et la prière. Et j'ai fait mes comptes. Et à ma honte, je me suis rendu compte que c'est la prière que nous faisions le moins, alors que Dieu attend de sa maison que l'on prie. Ça a été tellement fort que le mardi soir, j'ai dit à l'église, écoutez, quelque chose ne va pas dans le fonctionnement de notre église. J'ai fait une rencontre avec le Seigneur dans mon bureau, voilà ce qu'il m'a dit, on ne peut plus continuer comme ça. Nous allons faire de la prière la priorité de la vie de l'église parce que sa maison est une maison de prière. Nous n'avons rien changé pour le mardi. Le vendredi, nous avions l'étude biblique à 20h, nous avons commencé à 19h30 par une demi-heure de prière. Le culte commençait à 10h, à partir de 9h30, nous étions là devant le Seigneur. Pendant les réunions d'évangélisation, il y avait un groupe de frères qui priaient dans une salle à côté pour la réunion d'évangélisation. Et nous avons avancé tranquillement. Avec, de temps en temps, quand des choses le demandaient, nous avions des nuits de prière après l'étude biblique le vendredi soir, qui se terminait vers 9h15, nous commencions à 10h le soir jusqu'à 2 ou 3h du matin. Et puis, un jour le Seigneur m'a dit, mais ton église, elle est plus souvent fermée qu'ouverte. Ben, oui, c'est vrai ça. À part les quelques réunions, elle est plus souvent fermée qu'ouverte. Alors on a fait porte ouverte, de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ça. Je ne suis pas un prédicateur de recettes, de méthodes. Ça, c'est ce qui s'est passé avec moi. Après, vous réfléchissez, chacun construit comme il veut. Mais, je me suis dit, ben oui, au fond, l'église est plus souvent, enfin, le local est plus souvent fermé qu'ouvert. Alors, on a fait, de temps en temps, porte ouverte. C'est-à-dire que, du lundi matin 6h jusqu'au soir 20h, nous étions là, dans l'église, pour prier. Alors moi, avec les collaborateurs, nous y étions. Vous savez, on peut prêcher sur la prière, mais le vivre comme ça, c'est très long. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ce qui fait que les chrétiens qui voulaient venir prier avant de partir au travail le matin venaient. Ceux qui voulaient revenir jeûner le midi ou le soir venaient. Entre deux, les gens d'un certain âge qui ne pouvaient pas se lever de bonne heure venaient. Il y avait un roulement de prière toute la journée, tout au long de la semaine. Et j'avais dit aux chrétiens, écoutez, pas de programme, on reste sensible à Dieu, il ne faut pas faire de programme. Amenez les recueils de chants, à l'époque nous avions les recueils de chants, amenez votre Bible, je ne sais pas si on le chantera, je ne sais pas si on priera, si on prêchera, on verra bien. Et cette semaine-là, eh ben, on n'a ni chanté, ni prêché. On a prié, tous les jours. Et au milieu de la semaine, alors que nous ne chantions pas, que nous ne prêchions pas, des chrétiens ont commencé, des chrétiens que je connaissais de l'église, ont commencé à pleurer, à sangloter à haute voix sur leurs péchés. Et il y a eu des confessions de péchés au milieu des chrétiens. Ça a été quelque chose de très particulier. Nous avons arrêté cette première semaine de porte ouverte, le vendredi après-midi. Et le vendredi soir, nous avions l'étude biblique. Et j'ai dit aux chrétiens, c'est pas parce qu'on a prié toute la semaine et tous les jours, toute la journée, qu'on va supprimer la réunion de prière à 19h30, on est là. Et l'église était là, l'église a prié. Je n'ai jamais vécu ça, ni avant ni après. Il y avait une onction sur la réunion de prière, le temps de prière, quelque chose d'inouï. Au point que j'ai dit, il y avait un jeune frère qui était en formation pour le ministère avec moi, un stagiaire. Je lui ai dit, nous étions au premier rang, il devait monter sur l'estrade pour diriger les chants. Je lui ai dit, écoute, tu ne dis rien. Tu indiques le numéro des chants, et c'est tout. Parce que j'avais le sentiment, il y avait une telle présence de Dieu, que j'avais le sentiment que la moindre parole allait abîmer ce moment-là. Alors je savais bien que arrivé, derrière le public, nous allons chanter le numéro 45, les musiciens donnent le ton, l'assemblée chante, il y avait une présence de Dieu inouïe, chanterons le numéro 72, bon, quelques chants, mon tour vient. Et j'ai réfléchi à 300 à l'heure comme une Ferrari. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis arrivé au pupitre et puis j'ai dit, écoutez, on va se lever et on va adorer Jésus. Et là, c'est pas descriptif, il fallait le vivre. C'est comme si on avait arrosé quelque chose avec de l'essence ou un barbecue et que vous ayez mis le feu. C'était une fournaise. Nous n'avons rien fait. C'était le feu de Dieu sur l'église. C'était les louanges de tout le peuple qui montaient vers Dieu avec une intensité que je n'ai jamais vécue ni avant ni après. Ça durait des minutes et des minutes. Et le diable est venu sur l'estrade et il m'a dit là, il faut arrêter ça. Faut que tu prêches, parce que il y a des gens qui sont venus pour entendre la prédication. Si tu prêches pas, les chrétiens vont dire on est venu, il n'a pas prêché. Alors j'ai entonné un cœur, un magnifique cœur qui exalte la personne de Christ, la magnificence de Jésus, et l'assemblée a chanté. Vous savez que l'assemblée, on se connaissait, et il suffit de se regarder dans les yeux, on se connaissait. Et l'assemblée savait que quand je faisais ça, c'est que après, on s'arrêtait et je prêchais. Alors l'assemblée a chanté. Mais j'ai rien pu arrêter du tout. Parce que c'est comme si les gens m'avaient dit, fichou la paix, on a autre chose à faire pour l'instant. Et après le chant, c'est reparti de plus belle. Et ça a duré de longues minutes, et j'ai fini par prêcher. Et c'est sûrement pas ce que j'ai fait de mieux ce soir-là, mais on apprend tout le temps avec le Seigneur. Sauf que, une sœur antillaise, que j'avais baptisée, toute simple, toute gentille, calme, douce, vraiment une sœur paisible. Je me souviens, après le baptême d'eau, on l'avait prié pour elle, pour le baptême de l'esprit. Elle avait été remplie du Saint-Esprit, elle s'était mise à parler en langue, mais très calmement, très simplement. Enfin, c'était une personne calme. Pas une mystique du tout. Dans la semaine, le Seigneur, on avait eu quelques prophéties d'un haut niveau, et le Seigneur avait dit, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, etc. Pendant ce fameux moment de prière, elle est, à la fin de la réunion, elle est allée voir ma femme et lui a dit, vous savez, pendant le moment de prière, j'ai senti comme de l'eau qui me coulait dessus. Sauf que, quand le moment de prière était terminé, elle était vraiment trempée. Alors, je ne crois pas aux paillettes d'or ni aux plumes d'ange, hein, je ne crois pas tout ça, mais là, elle a vécu quelque chose. C'est qu'elle était trempée, au point qu'elle a mis un gilet autour d'elle pour pas qu'on pense que, à partir de ce moment-là, elle a commencé à prophétiser. Le Seigneur, ce soir-là, lui a donné le don de prophétie. Son mari, qui n'était jamais venu aux réunions, a commencé à venir à partir de cette soirée-là. Il s'est converti, on a eu la joie de le baptiser. Et l'Église a commencé à envahir toute la ville par la prière. Nous avions un frère gardien de prison, un stagiaire qui commençait à être visiteur de prison. Nous avons commencé à prier pour la prison, pour la directrice de la prison. Nous avons prié pour l'hôpital, demandant au Seigneur de sauver des médecins, des malades. Nous avons envahi les universités, les collèges, les administrations, la délinquance, la prostitution, tout. Nous envahissions tout le territoire de la ville par la prière. Bien. Un dimanche après-midi, réunion d'évangélisation, nous avions une réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. Je prêche simplement l'évangile de tout mon cœur, il y avait une grâce sur la réunion, et je fais un appel demandant aux gens qui voulaient donner leur vie à Jésus de venir là sur le devant pour que je les aide dans leur démarche avec Christ. Et je vois une douzaine de personnes spontanément qui viennent là. Donc je descends d'estrade et je commence à prier comme ça. Et la dernière, c'était une femme en larmes, en sanglots. Et entre deux sanglots, elle me dit, est-ce que je peux vous voir après la réunion? Je lui dis, pas de problème, donc on se voit pour le fond de la salle, elle s'approche de moi, et elle me dit, je me présente, Je suis la directrice de la prison. Vous me suivez ? Un homme de couleur se convertit dans les mois après. Nous avons eu la joie de le baptiser. En parlant avec lui, je dis : mais qui vous êtes ? Je suis anesthésiste au CHU. Vous me suivez toujours ? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Je crois à cette force-là parce que le Seigneur m'enseigne ces choses. Alors quand on prend cette voie-là, on a des bénédictions et on se ramasse les principaux sacrificateurs. Parce qu'il y a les deux courants, hein. Les fils nés selon la chair persécutent les fils nés selon l'esprit. Et c'est étonnant, mais c'est venu des principaux sacrificateurs. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où nous suivrons une voie qui est celle du Seigneur, parce que je crois que c'est celle du Seigneur, attendons-nous à des réactions, attendons-nous à de l'opposition, mais je vous dis, mais tenons bon, parce que c'est le seul chemin, je le crois. C'est le seul chemin. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors bien sûr, après tu chantes, après tu prêches, après tu témoignes, mais c'est pas pareil. Moody, on en parlera tout à fait en fin de journée, mais juste le citer comme ça, a été un évangéliste dans les siècles passés, magnifiquement employé par le Seigneur. Des dizaines de milliers de personnes se sont converties par son ministère. Il avait un chanteur, Sanke, qui n'avait pas une voix extraordinaire, mais qui chantait dans les campagnes d'évangélisation de Moody. Et Sanke chantait un cantique, et parfois, des gens quittaient leur chaise et venaient s'agenouiller et sanglotaient sur le péché, sur leur péché. Moody n'avait pas commencé à prêcher. C'était simplement le cantique de Sanke. Dans ces cantiques-là, tout y était, le sang, la croix, la rédemption, Jésus, tout y était. Pour chanter un cantique, Sanke passait 5 heures à genoux. Pour un cantique dans une réunion, il passait 5 heures à genoux. Et quand il priait, l'enfer, quand il chantait, l'enfer était vaincu. Ma maison sera plus une maison de prière pour toute nation. Quand tu le rencontres, tu peux le chanter. Quand tu le rencontres, tu peux parler de lui. Quand tu le rencontres, tu peux le prêcher. Sinon, on a des programmes, on a du métier, on sait faire. Mais Jésus nous dit, ma maison sera plus une maison de prière. Alors, le temps passe, on va boucler à 4h30 cette partie-là, je vous le promets. On n'aura peut-être pas le temps de tout voir, mais je vous laisse une piste de réflexion. Je suis allé étudier la place de la prière dans l'église de la première heure. C'est bien que celle de la 11e heure regarde l'église de la première heure. Vous savez que le seul récit inspiré, je dis bien inspiré, de l'histoire de la première église se trouve dans la Bible, dans le livre des Actes. Et ce récit nous montre une église qui est dans une victoire permanente. C'est un véritable rouleau compresseur, l'église primitive. Sans internet, sans téléphone, sans imprimerie, sans avion, l'église primitive, en une génération, a atteint le monde connu d'alors. Un véritable rouleau compresseur à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, dans l'Antioche du Nord, qui est devenu un véritable pôle missionnaire pour l'Europe après. L'église et conquérante partout dans les Actes. C'est un rouleau compresseur, avec des résultats différents suivant les régions, je vous l'accorde, mais c'est quand même le rouleau compresseur qui avance et qui gagne. On a beaucoup discuté sur le titre qu'il fallait donner au livre des Actes. Théologiens protestants, évangéliques, même pentecôtistes discutent, est-ce qu'il faut l'appeler les Actes des Apôtres ou les Actes du Saint-Esprit ? On a beaucoup discuté là-dessus. Moi, j'ai un titre à moi. Mais c'est long, c'est vrai que c'est long pour l'imprimeur de mettre mon titre. Mais voilà mon titre à moi. Actes des apôtres, par la puissance du Saint-Esprit, en réponse à la prière des chrétiens. Alors c'est vrai que c'est un peu long, mais en fin de compte, c'est ça. Actes des apôtres, par la puissance du Saint-Esprit, en réponse à la prière des croyants. Parce que quand je lis les actes, et ça a été une découverte formidable, la prière est à tous les chapitres. Jésus vient de monter au ciel, il n'y a pas encore eu la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils font? Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le Seigneur est parti, il faut se dépêcher. Le monde est à conquérir. Allez, frères, on y va. Jésus dit, oh, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Vous allez avec quoi? Vous allez vous frotter contre les démons avec quoi? Vous allez avoir des paralytiques, vous allez avoir des possédés, vous allez avoir à Éphèse des gens qui pratiquent les sciences occultes. Vous allez avoir affaire à des devins, à des gens qui vont être là près des politiques et qui vont s'opposer à votre prédication pendant que vous allez prêcher. Vous allez aller avec quoi? Vous n'allez pas aller, vous allez attendre. Vous allez prier jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende. Et alors, vous allez partir. Mais vous allez partir comme des hommes enflammés. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors oui, quand il y a eu le feu, ça a été autre chose. Des premiers disciples, 3000, qui se convertissent en une réunion, ça fait quand même rêver, ça. Ils persévéraient dans les prières. Ça, c'est acte 2. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était 3h de l'après-midi. Et là, c'est en se rendant au temple, à l'heure de la prière, qu'a eu lieu le miracle dans le corps du boiteux. Là, j'ai souri un jour, mais j'ai souri jaune. Parce que je me suis dit, toi, Paul Balière, à 3h de l'après-midi à Jérusalem, en te rendant au temple à l'heure de la prière, qu'est-ce que t'aurais fait? T'es boiteux? Ah oui, plus de 40 ans, t'as jamais marché. Ah ben ça tombe bien. Je viens à une réunion de prière, on va prier pour toi. C'est pas ce qu'on aurait fait? Allez, à Boixi. Les apôtres n'allaient pas à la réunion de prière pour regonfler leur batterie. Ils étaient remplis avant d'y aller. Or, dans nos églises, les chrétiens ont toujours besoin de la réunion de prière pour regonfler les batteries. Ils ont l'impression qu'il y a un pneu crevé. Ils sortent de la réunion, après ça va moins bien le jour d'après. Ah, vivement le temps de la réunion. Et... Non, ils étaient remplis. Et ils n'allaient pas dans le temple pour prier pour que le boiteux guérisse. Ils l'ont guéri en allant à la réunion de prière. Ce que j'ai. Et j'attends pas la réunion de prière pour l'avoir, parce que ma vie avec Dieu, c'est une vie de prière. Alors ce que j'ai, je te le donne. Ça, c'est une bonne question à vous poser. Ça aussi, ça a été une remise en question dans ma vie, dans mon ministère. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, permets qu'il y ait du succès. Et par moments, il faut se demander pourquoi on le veut, le succès. Hein. C'est très subjectif, tout ça. Mais Seigneur, permets qu'il y ait du succès, permets qu'on remplisse la salle, qu'il y ait un peuple pour toi. Le Seigneur m'a parlé par le livre de l'Ecclésiaste, quand le bien abonde, ce qui le mange abonde. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as à donner à manger aux gens? Est-ce que dans la réunion, ils ont à manger pour, au point de pouvoir avoir envie de venir? Quand le bien abonde, ce qui le mange abonde. Alors, l'Église avait, les apôtres avaient, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On se rassemble, on leur interdit de prêcher l'évangile. Ça se resserre, il y a des interdictions dans l'évangélisation. Acte 4, 23, 24 et 31. Après avoir été relâchés, les apôtres qui venaient d'être dans les interdictions, ils n'ont pas dit, écoutez, on va essayer de se rassembler et on va travailler ensemble à faire une lettre officielle, une pétition pour les autorités. Il faut absolument qu'on règle ça tranquillement, on va faire une lettre bien tournée, quitte à faire une fédération. Le problème était spirituel, ils l'ont réglé spirituellement. Je rêve pas, c'est ma vie, c'est tout, c'est mon Dieu. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, j'aime bien cette expression-là, et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, bon, ça c'est pas le plus important, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. interdiction ou pas interdiction, on est rempli de Dieu, on y va. Et Dieu a béni. Alléluia. Acte 6, verset 4. Il y a un petit problème. Il y a des veuves qui sont négligées dans l'organisation matérielle de l'Église. Enfin, ça ne se passe pas très bien. Et les apôtres ont dit non, nous, on ne peut pas s'investir dans les affaires matérielles. On a été appelés à deux choses. Et il cite en premier la prière et le ministère de la parole après. Donc, nous, on a été appelés à ça. C'est ça, notre ministère. Il ne faut pas qu'on se laisse dévorer par les affaires matérielles. Il faut déléguer. Il faut que des frères dans l'Église s'occupent de ça. Nous, on ne va pas se laisser manger le ministère par les problèmes matériels de l'Église. Alors, vous allez nommer... J'aime pas le mot diacre, parce que c'est bizarre. On a francisé le mot grec. C'est le mot serviteur, c'est tout. Diaconos, c'est le serviteur dans les choses matérielles. Donc on a choisi des hommes, sept. On a choisi des consonances grecques parce qu'il y a un problème avec les hellénistes, c'était très sage. Donc on a établi les serviteurs. Et les apôtres disent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Étienne, premier martyr, meurt à genoux. En priant. Écoutez bien. Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » C'est un écho de la croix. Il avait dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il est tellement rempli de Jésus et il vient de le voir debout, il dit « Je remets mon esprit. » Et puis c'est pas tout. S'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Un deuxième écho de la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il s'étant mis à genoux et après avoir dit ces paroles, il s'endormit. On est au chapitre 16 des Actes. Chapitre 8. La Samarie vient d'être bouleversée par un courant d'évangélisation. On a établi une assemblée. Il y a eu des miracles, des guérisons, des conversions, des baptêmes d'eau. Et le collège apostolique de Jérusalem apprend que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Et comme Philippe est évangéliste, chacun a son ministère avec ce qui convient au ministère, et les ministères sont complémentaires, les apôtres ont dit, derrière Philippe l'évangéliste, il faut envoyer Pierre et Jean, apôtres, pour qu'ils puissent asseoir l'Église dans la vie de Pentecôte, dans le baptême du Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean ont été envoyés en Samarie, et je lis, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. » Acte 9. Il n'y a que 28 chapitres. Ah non, mais j'arrête, même si c'est pas fini. Acte 9. Conversion de l'ennemi public numéro 1. Saul de Tarse. Vous connaissez ce récit magnifique de la parole de Dieu. Le persécuteur va devenir prédicateur. Pour l'instant, il est à Damas, il y voit plus clair. Alors le Seigneur appelle Ananias. « Me voici, Seigneur. » Parce que quand il a appelé Saul, Saul a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Ah oui, ce n'est pas la même chose. Je ne lui connais pas, mais Ananias, il connaît. Il y en a un qui dit « Qui es-tu ?» L'autre, il dit « Que veux-tu ?» Ben écoute, j'ai une mission pour toi. Dans la rue qu'on appelle la droite, là, il y a Saul de Tarse, il vient de se convertir, tu vas y aller, puis tu vas prier pour qu'il recouvre la vue, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit baptisé d'eau aussi. Et là, Ananias va informer Jésus de choses que Jésus ne sait pas, comme on fait nous parfois. Mais Seigneur, j'ai appris, toi tu ne sais pas Seigneur, mais moi, j'ai appris des choses. C'est que cet homme a reçu des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs et il vient là, on sait pourquoi il vient. Et vous savez ce que Jésus va dire à Ananias? Oh, il ne va pas dire grand-chose. C'est ça, car il prie. Tu veux une preuve de sa conversion? Ne me dites pas que, en tant que juif jusqu'au bout des ongles, pharisien dans la secte la plus rigide de sa tradition, il n'adressait pas des prières à Dieu, mais là, il prie. Pas pareil. Il prie. s'il y a la vie nouvelle, as-tu pris? Comment est-ce que tu peux ne pas avoir un contact avec celui qui t'a fait naître? Il prie. Dans le même chapitre, les chrétiens sont désignés plusieurs fois comme ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Ananias dit, là ici, en parlant de Saul, des pouvoirs pour lier ceux qui invoquent ton nom. Il ne dit pas les chrétiens, il ne dit pas les disciples. Là, il y a une belle identité, ceux qui invoquent ton nom. N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom? Ah, si on peut parler de toi, ma sœur, ah ben, c'est celle qui invoque le nom du Seigneur. Ah, ça c'est bien ça. Bon, je ne fais pas pour ça, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Au chapitre 9 des Actes, il y a une gazelle qui meurt. Dorcas, une petite femme. Le nom signifie gazelle. Oh, c'est pas une femme qui prêche, c'est pas une femme missionnaire. Non, non. Fais des vêtements pour les pauvres. Dieu a jamais ressuscité Paul, Dieu a jamais ressuscité Pierre, mais l'a ressuscité Dorcas. C'est curieux, ça. Alors, les femmes ont beaucoup de peine parce que leur amie chrétienne, qui était tellement utile à l'œuvre de Dieu dans des choses qui paraissent secondaires, mais il n'y a pas de petites choses pour le Seigneur. Jamais. Quand on est à sa place et qu'on fait ce qu'on doit faire, c'est une grande chose pour Dieu. On fait venir Pierre, tous les gens pleurent autour de lui, et Pierre ne sait pas ce qu'il faut faire. Il sent qu'il y a un problème là, avec le départ de cette chrétienne-là. Mais il fait sortir tout le monde, puis se met à genoux et il prie. Pourquoi est-ce qu'il prie? Pour avoir la puissance d'opérer le miracle? Je ne pense pas que ce soit ça, quand on connaît Pierre. Je pense qu'il avait besoin de savoir ce que Dieu voulait dans cette affaire. Et après ce temps de prière, il s'est tourné vers le corps et il a dit, Tabitha, lève-toi. Il a rouvert la porte. Et là, présenter la petite ouvrière en confection de vêtements à ce groupe de chrétiens. Il ne dit pas que Dieu va ressusciter les morts, tous les morts. Mais enfin, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans le domaine du miraculeux, l'Église a baissé quand même? Chapitre 10. C'est pendant que Corneille, prie. Parce que c'est un centenier romain qui n'est pas encore sauvé, mais qui prie, avec les lumières qu'il a. C'est pendant qu'il prie, ce centenier romain, qu'il a la vision d'un ange, acte 10, 30. Corneille dit, quand il fait le rapport de son expérience, « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un ange vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. » Ça s'est passé dans un temps de prière. Pendant ce temps-là, à Jopé, il y a Pierre, il loge chez les gens, il est sur la terrasse à midi, il a faim, on lui prépare à manger, et là, sur la terrasse, il prie, et il tombe en extase. D'ailleurs, il y a des rationalistes qui disent qu'il a fait une crise d'hypoglycémie, parce qu'il avait faim. Il n'a pas fait une crise d'hypoglycémie, il a eu une révélation. Il a vu une natte qui descendait du ciel attaché par les 4 coins avec des animaux impurs de la loi qu'on ne devait pas manger. Et une voix qui lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Il n'est pas possible que le Seigneur me demande quelque chose qui est... Et le Seigneur se sert de ça, de cette image-là, pour lui enseigner quelque chose. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Non pas dans le sens où il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'ils sont déjà naturellement purs. Le sens, c'est que personne n'est exclu du salut de Dieu. Dieu ne fait pas de clivage en laissant certains dans le péché et d'autres qu'il voudra bien sauver, mais Dieu a donné son Fils pour le monde. Alors, tu réfléchis, pour moi, aucun homme n'est souillé impur. Et à ce moment-là, on frappe à la porte, et les gens envoyés par Corneille sont là, Corneille attend, il veut entendre parler des choses de Dieu. Tout ça, ça s'est passé dans une atmosphère de prière. Chapitre 12, Jacques, une grande colonne de l'Église, et je termine avec cet exemple-là, pour aller jusqu'au chapitre 28. Mais à tous les chapitres, quelque chose. Jacques est tué par l'épée. Une colonne de l'Église qui meurt. Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi? Ça ne sert à rien, les pourquoi, dans ces moments-là. Il y a des moments, même dans les drames les plus terribles, on n'a pas les réponses. Et Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Jacques est tué. Et on arrête Pierre. Et le désir, c'est de faire exécuter Pierre après les jours des pains sans levain. Il va mourir. Et là, l'Église, ils l'ont, cet homme. Hein? Mais pas deux. Jacques est parti. Tu sais la perte que ça représente. Pas Pierre, Seigneur. Pas lui aussi. Il faut que ça s'arrête. Et j'ai cette phrase de la Bible magnifique. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et lui, en ces moments-là, il ne priait même pas. Il se reposait, il dormait. Je ne sais pas comment il a fait. Alors que le soir, il savait que le lendemain, il allait être au raccourci d'une tête. Il est là, paisible. Il était gardé dans la prison. Oui, mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et quand l'Église ne cesse d'adresser des prières à Dieu, le ciel s'ouvre, des chaînes tombent, des portes s'ouvrent, même la grande porte de fer qui mène à la ville s'ouvre. Les gardes qui sont là pour empêcher l'œuvre de Dieu sont comme morts. Dieu n'a que faire de ces bons hommes-là. Dieu fait son œuvre. Quand l'Église prie, le ciel s'ouvre. Jésus nous a donné le ton au sortir de baptême, du baptême pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. Une église cherchait un pasteur ailé parce qu'ils se sont retrouvés sans pasteur. Et les membres de l'Église, notamment les plus influents, les membres du Conseil, ont dit à des instances, nous, on est une Église, il nous faut un grand homme. Il nous faut comme pasteur un grand homme. Un homme tellement grand que quand il va être à genoux, il va toucher le ciel. C'est ça, l'Église de la 11e heure. La fin est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ne cherche pas la clé qui va ouvrir la grande porte qui mène à la ville. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Tu veux la ville? Je te dis que tu peux la voir. Tu es un rêveur? Non, non, non. Tu es un homme qui lit la Bible et qui la croit. Tu veux la ville? Tu peux la voir. Il y a des gens qui ont eu leur ville. Il y a même des gens qui ont eu leur pays. J'en parle dans mon livre. Les baisers de Dieu. Vous pouvez vous le procurer. Il y a des pays entiers qui ont été secoués par le vent de l'esprit. Le réveil du pays de Galles est venu par des jeunes qui ont cherché Dieu, qui ont été enflammés. Les mineurs étaient convaincus de pécher au fond des mines. Les troupes de théâtre ne passaient plus par le pays de Galles, il n'y avait plus de spectateurs. Les équipes sportives se sont trouvées disloquées, il n'y avait plus de gens passionnés pour le sport. Les juges n'avaient plus de cause à juger. Le pays entier a été secoué, j'en parle dans ce livre. Oui, je suis peut-être utopique, mais avec ma femme, tous les jours, on prie pour qu'il y ait un souffle sur la France. Parce que je crois que c'est encore possible. Le temps est très court, mais je crois que c'est encore possible. Je crois qu'il peut y avoir un souffle sur Rennes. Nous allons prier pour le frère, nous allons prier pour ses collaborateurs, nous allons prier pour votre Église, parce que Dieu peut faire de grandes choses. Mais c'est à genoux qu'elles se feront. Le reste, ça va suivre. Mais ça commence à genoux. Si vous pouvez entendre non pas l'appel de Bavière, ça vaut rien. Et si vous pouvez entendre l'appel du Saint-Esprit, vous tiendrez le bon bout. La fin est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. On va prier le Seigneur avant la pause. Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous avons entendu l'appel de ta parole. Je ne doute pas un seul instant que cet appel nous remue, qu'il nous bouscule, qu'il nous dérange, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Je te supplie de triompher de ce qu'il peut encore y avoir de résistance, de raisonnement, de calcul. Je te supplie de nous aider à être pleinement persuadés et à persister dans une entière soumission à ta volonté. Bénis mon frère qui est là et son épouse. Oh, je te supplie, Seigneur, de le renouveler, lui et son épouse. Renouvelle notre frère dans son ministère. Renouvelle-le puissamment, réjouis-le, Seigneur. Nous prions pour les collaborateurs. Nous te prions pour les membres de l'Assemblée. Nous prions pour les frères et les sœurs engagés dans les divers services, auprès des enfants, des plus jeunes, dans la musique, dans le chant, dans quelque autre service, dans l'accueil et autres. Seigneur, nous plaidons avec toi. Souffle sur nos assemblées. Souffle sur le pays. Tu vois le virage la semaine prochaine avec les élections présidentielles. Seigneur, le destin de notre pays n'est pas dans des hommes, mais le destin de la nation est dans tes mains. Tu es sur le trône. Les nations sont dans ta main comme les gouttes d'un seau. Seigneur, donne gloire à ton nom. Tu vois cette pauvre terre de France, cette terre de Voltaire, cette terre de révolution, cette terre difficile. Mais ton esprit est plus fort que tout. Viens te glorifier, Seigneur, viens te glorifier. Dans un temps où l'Europe fête l'anniversaire de la réforme, permet qu'il y ait sur le pays la grande réforme de Jésus-Christ, un retour à la découverte de l'évangile primitif. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Pardon, pardon pour nos faillites dans la prière personnelle, familiale, ecclésiale. Aide-nous à revenir à toi. Nous t'en supplions. Aide-nous à prendre les bonnes résolutions. Il y aura des combats. Ça ne va pas être facile. Mais tu vas nous aider, Seigneur. Et je te bénis. Je te glorifie pour tout cela. Amen. Amen. Thank you.